bon pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur les Côtes des Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien je crois que ce soir c'est la deuxième émission, la deuxième partie de l'émission de la semaine dernière qui a, apparemment a eu un certain succès sur internet d'ailleurs.
Oui, ben apparemment oui, comme tu le disais. Ben écoute, j'espère que justement il y aura autant de succès pour la seconde partie, étant donné que nous allons entendre la fin de l'intervention de Gérard Noiriel de la présentation de son ouvrage Une histoire populaire de la France aux éditions Agone, qui est sorti il y a 15 jours. Cette intervention, elle a été enregistrée au Centre international de culture populaire le jeudi 20 septembre, j'ai pas mon calendrier dans les yeux, mais c'était quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc Gérard termine sa présentation, et à l'issue de ses présentations, il y a les questions du public. Et on va tout de suite passer, peut-être qu'on aura le temps de dire deux mots après, puisque c'est assez long, ça dure 45 minutes. Signalons que pour ceux qui auraient raté la première partie, vous pouvez évidemment la retrouver sur le site de l'OCL, le site du Chat Noir et le blog Arte Radio du Chat Noir. Voilà, on y va.
Après avoir vu un certain nombre de continuités, de fils rouges, je voulais t'interroger aussi sur les ruptures, les grands moments de ton récit, les moments vers lesquels le récit converge, quoi, les nœuds. Les nœuds qui sont ceux d'une période, d'une histoire de longue période qui se déploie sur une très grande période comme ça. Alors à un moment tu dis par exemple, et on retrouve hein, des coupures habituelles, classiques, sur lesquelles tu n'as pas forcément un regard justement habituel, mais tu dis par exemple il y a les grandes périodes de l'État, tu as commencé à le dire tout à l'heure, il y a le moment où vis-à-vis de l'État, on avait un État de sujet, les gens étaient sujets de l'État. Bon, et puis, première rupture, moment évidemment essentiel dans l'histoire de France, Révolution française, on commence à basculer vers un état de citoyen, donc avec ce que ça suppose comme changement. Et puis après, autour de 1945, en tout cas la construction de l'État-providence, on arrive dans un état d'ayant droit. Donc on a ces moments de rupture. Et puis, il y a une autre rupture, moins habituelle, mais qui là, je pense, tient aux travaux que tu avais fait auparavant, et qui, je trouve, quand on regarde les lignes de continuité et de rupture de ton travail, en fait, c'est vers là que je trouve que le plus de choses convergent. C'est la fin du 19e siècle, c'est autour des années, le moment des années 1880. Tu en as un petit peu parlé là avec le massacre des Italiens à l'instant, mais c'est aussi la grande loi sur la nationalité de 1889 qui met en question bien d'autres choses que la simple question de la nationalité, qui est déjà une énorme question. Ce moment des années 1880, est-ce que tu pourrais revenir dessus, qui est lui-même donc un moment essentiel dans ce que toi t'as étudié, et on le retrouve comme ça au milieu de ton récit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu, bien mieux que je pourrais le faire moi-même, en quoi ce moment pour toi est essentiel, important? Et puis dernière petite chose, tu vas jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une autre rupture, peut-être 100 ans plus tard, dans les années 1980, ton livre va très loin, tu dis des choses très très contemporaines, c'est un peu un risque que tu prends, mais c'est aussi ce qui donne l'intérêt de ta démarche. Est-ce que tu vois une rupture importante à ce moment-là aussi? Évidemment, avec moins de recul, bien sûr.
Effectivement, la périodisation, elle est construite par rapport à ma démarche, donc d'un peuple qui a été construit par l'État, disons, Donc, mais la première césure, je la place avant la Révolution. Je la place vers 1750, en fait. Hein. Parce que, bon, il y a toute une série de mutations, et là, je m'appuie sur des travaux récents par des historiens, il y a toute une série de mutations qui concernent à la fois les classes populaires, comme Arlette Farge l'a montré pour Paris, mais qui concernent aussi l'élite, les classes moyennes, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui précèdent la Révolution. Donc, je fais plutôt une césure à ce moment-là et je construis une périodisation qui va, je dirais, de 1750 jusqu'à 1870. Voilà, parce que c'est, on pourrait dire, à la fois l'ère des révolutions, hein, puisqu'il y a la Révolution française, c'est 1830, enfin, de 1848 et la Commune. Et puis, c'est aussi l'ère où il y a un enjeu majeur autour de la définition de la citoyenneté. Et c'est dans cette période-là où les classes populaires, en tout cas une partie d'entre elles, ont le plus de possibilités de définir leur propre conception de la citoyenneté qui est fondée sur l'action directe. Hein. Donc il y a tout un enjeu là très important qui est en général sous-estimé ou oublié, où il y a l'opposition entre une conception bourgeoise de la citoyenneté, celle qui s'est imposée, c'est-à-dire la délégation de pouvoir, voter, etc., et puis une conception d'action directe qui avait été portée au départ par les sans-culottes hein, et qui perdure après qu'on retrouve avec les citoyens combattants que Louis Hincker a étudié, qu'on retrouve évidemment sous la Commune, et qui va quand même continuer encore après, mais un peu décalé, avec le syndicalisme révolutionnaire, le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que le thème de la grève générale, c'est bien aussi une thématique d'action directe. Et de temps à autre, on le retrouvera après, dans les grandes luttes ouvrières, en 36, ou même en 68, etc. Donc ça, voilà, ça c'était pour moi important de périodiser, puisque mon objet, c'est les classes populaires. Donc je cherchais aussi des périodisations qui soient adaptées à l'objet. Alors effectivement, la période où les débuts de la Troisième République, pour moi, c'est une période fondamentale. L'essentiel de mes recherches ont porté là-dessus. C'est une période qui me fascine absolument. Je veux dire, il y a vraiment une rupture tellement forte dans tous les domaines à ce moment-là qui inaugure du présent dans lequel nous sommes peut-être en train de sortir. C'est aussi ça le lien avec aujourd'hui. Que j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est ce que j'appelle la nationalisation de la société française. Le mot nationalisation n'étant pas entendu au sens idéologique. Ça ne veut pas dire que tout le monde pensait pareil, qu'on était... Non, ça veut dire que l'État pénètre, l'État national pénètre profondément dans la vie quotidienne des gens. Et ça, je l'avais observé une première fois quand j'ai travaillé dans ma thèse sur les ouvriers de la région de Longwy, en Lorraine. C'était une région qu'on appelle le pays des trois frontières, donc à la frontière de la Belgique, à l'époque de l'Allemagne et de la France. Et c'est la loi sur la nationalité. Moi, je l'ai étudié par en bas. J'ai étudié, mais qu'est-ce que ça fait pour les gens, tout d'un coup, d'avoir cette loi sur la nationalité? C'est très abstrait, le mot nationalité, quand on y réfléchit. L'appartenance à la population d'un État, c'est ça la définition juridique. Donc j'ai vu comment pour les gens, il y avait une sorte de perturbation profonde de leur identité. Il fallait qu'ils produisent des actes de naissance, etc. Enfin, ils disaient, mais moi je suis là, tout le monde me connaît, je suis du pays, etc. Enfin bon, il y a toute une série de choses, et ça m'avait, donc c'était assez mes premiers travaux, mais ça m'avait fasciné. J'ai poursuivi ce fil-là en le développant. Et je crois donc qu'effectivement, cette période-là, de la fin du XIXe siècle, elle est tout à fait déterminante, parce que c'est, au-delà de la France, c'est une réorganisation du monde sur la base des États nationaux. Donc c'est le point de départ de ce qui débouchera sur la Première Guerre mondiale, avec aussi la conscription obligatoire, la presse de masse, là, toute une série de facteurs que aussi j'ai appelé au niveau du journalisme la fédiversion de la politique, enfin, pour rendre accessibles les choses compliquées de la politique à des gens qui appartiennent aux classes populaires, il faut forcément passer par le récit, hein, le storytelling, comme on dit. Donc voilà, les grands médias, les journalistes vont inventer des récits avec des personnages, le français, l'étranger, le colonisé, etc. etc. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont élargir l'horizon des paysans et des ouvriers de l'époque. Mais du coup, évidemment, ça génère aussi toute une série de stéréotypes et naissent à ce moment-là les grands courants du nationalisme. Je dis souvent, je suis même en train d'écrire un truc là-dessus, mais que l'ancêtre de Zemmour, il s'appelait Édouard Drumont, hein, le fondateur du nationalisme antisémite en France. Il invente une rhétorique qu'on retrouve aujourd'hui chez Zemmour, c'est-à-dire faire scandale pour se faire avoir des comptes rendus et des journalistes qui du coup disent on va l'inviter parce que comme ça on fera de l'audience, etc. On voit ces mécaniques-là qui sont aussi des contraintes pour les journalistes hein, dans le champ journalistique dominant, hein, parce qu'il y a aussi, évidemment, la démocratisation, ça veut dire que d'autres voix peuvent se faire entendre, mais sont plus limitées, etc., etc. Donc toute la construction de cet espace public dans lequel on vit encore, se met en place à ce moment-là, et aussi la logique des partis politiques. Enfin bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est une période, je trouve, tout à fait fascinante. Et l'ironie de l'histoire, je pense que cette période qui date des années 80, qui a été une rupture, il y a une grande, ce qu'on appelle la Grande Dépression, qui est la première grande crise du capitalisme dans les années 80, et qui en France va toucher la France d'une manière particulièrement forte, parce que ça met fin à un type de capitalisme original qui s'était développé en France auparavant, qui était une manière de résistance des classes populaires contre l'exode rural, contre la prolétarisation, et il y a une sorte de compromis de classe qui se développe notamment sous le Second Empire, entre l'industrie et l'agriculture. Donc la France est un pays où il y a beaucoup de petits propriétaires, de paysans, d'artisans, etc. Les années 80 arrivent, la Grande Dépression, la découverte du minerai de fer dans Lorraine, etc., les grandes usines, et tout ce modèle s'écroule. Donc il y a un sentiment de crise profonde qui se développe à ce moment-là, et un nouveau monde va émerger, et ce nouveau monde, eh bien, on le voit nous craquer aujourd'hui sous nos yeux, et je pense que les années 1980 ont marqué effectivement la fin d'une époque. Et nous sommes entrés dans une nouvelle époque, mais qu'on a du mal, évidemment, parce qu'on est dedans, à définir. Mais c'est bien quand même de donner une perspective historique, parce que à la fois ça permet de saisir des continuités, mais en même temps de montrer que ce qui se transforme enfin, sous nos yeux depuis donc une vingtaine d'années.
Une dernière question peut-être, parce qu'il faut qu'on laisse évidemment du temps pour la discussion. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est que c'est rare aussi dans un livre d'historien, mais là, justement, parce que c'est un objet un peu différent et populaire, c'est présent, c'est qu'il y a parfois des leçons d'histoire, il y a même parfois des progrès dans l'histoire, ce qui n'est pas si courant. Alors j'en ai juste un exemple, des leçons, c'est des petites notations ici et là dans le livre qui disent par exemple « Les intellectuels généralisent ceux qui les touchent hein ». Et ça, c'est très vrai, on le montre voilà, à différentes périodes, et tu en prends des exemples. Et puis le progrès, j'ai été très frappé à la fois dans l'introduction, à plusieurs moments tu y reviens, par cette idée qu'il faut pouvoir se déprendre de soi-même. Et une chose que tu montres très puissamment, c'est que pendant très longtemps dans l'histoire, l'histoire de France notamment, eh bien, on a été incapable de voir l'autre comme étant soi-même, de voir le colonisé comme un autre soi-même, de voir le domestique qu'on avait dans un château d'aristocrate au XVIIIe siècle comme étant un humain comme soi. Et tard au XIXe siècle, on a considéré que les paysans, d'ailleurs, n'étaient pas tout à fait des gens qu'on pouvait admettre dans les villes, qui n'étaient pas civilisés au fond, qu'ils étaient l'autre. Et finalement, il y a quand même eu, tu le montres, une capacité de plus en plus grande à pouvoir se mettre à la place de l'autre et à pouvoir le reconnaître. Et donc ça, il y a peu de raisons de penser qu'il y a des progrès dans l'histoire, mais de ce point de vue-là au moins, de la reconnaissance de l'autre, il semble que les choses avancent dans ce sens.
Oui, alors ça c'est une question extrêmement importante parce qu'elle touche aussi aux finalités civiques du livre. C'est, je le dis aussi dans l'introduction, que mon rêve, entre guillemets, ce serait aussi de faire que les lecteurs puissent se rendre étrangers à eux-mêmes. C'est la traduction que je donne du mot de Brecht, qui est « Verfremdung », qu'on appelle, traduit par « distanciation », mais que je préfère parce qu'il y a le mot « étranger », se rendre étranger à soi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de l'écriture du livre, du style que j'ai adopté, souvent je commence des chapitres par des exemples paradoxaux. Je ne vais pas insister sur beaucoup de temps, mais pour un peu surprendre le lecteur, pour le décentrer par rapport à ses croyances, etc. Parce que moi, c'est ça que m'a appris la recherche. La recherche, c'est aussi un moyen de prendre des distances par rapport à ce qu'on croyait au départ. C'est comme ça aussi qu'on s'enrichit, qu'on emprunte des cheminements différents. Peut-être qu'à ce niveau-là, l'histoire ressemble à la littérature, je ne sais pas. Enfin, tel que je conçois le métier, je ne dis pas que tous les historiens pratiquent ce genre de choses. Il y en a qui répètent toute leur vie la même chose. Bon, mais moi, ce n'était pas ce que je trouvais bien dans ce métier-là. Donc, et effectivement, du coup, on peut faire le lien avec le contenu, c'est-à-dire qu'on constate que dans l'histoire, malgré les grandes proclamations universalistes qu'on a rencontrées en France, évidemment, depuis le XVIIIe siècle, très souvent, la définition qui est donnée de l'humanité, elle est très limitée. On voit jusqu'à la Troisième République, les paysans ne sont pas considérés comme des hommes comme les autres, des femmes comme les autres. Il y a un fossé, et les paysans sont vus comme n'étant pas civilisés d'une autre race, y compris dans les discours, par exemple, de Jules Ferry, sous le Second Empire, etc. Donc il y a un travail d'évolution, et j'ai montré ça aussi pour le clown chocolat, donc, qui était un esclave noir venant de Cuba. Quand il arrive en France, il est perçu comme un extraterrestre, il n'est pas vu comme un humain. Bon, c'est même antérieur au racisme, je dirais que c'est, ça précède presque le racisme. Donc il y a une évolution. Alors cette évolution, on la doit à l'art, beaucoup à la littérature, au cinéma, etc., à des capacités qui sont données à des individus pour s'identifier à d'autres, qui ne leur ressemblent pas. Et ça, c'est un enjeu aussi politique majeur, puisque, effectivement, les réactionnaires tentent de mobiliser leurs troupes en confortant le « nous », l'identité du « nous hein ». Nous sommes éternels depuis les Gaulois, nous, etc. Donc, tout ce qui peut ramener de la diversité. Mais ce n'est pas de la diversité pour la diversité. La diversité, après, elle évolue. Elle n'est plus saisie comme diversité. Je vous prends juste un petit exemple lié à l'actualité, la question des prénoms. Vous avez entendu, certainement, cette histoire, cette polémique sur les prénoms. Eh bien, moi, j'avais trouvé dans mes recherches sur l'immigration, en 1945, un article d'une revue pourtant savante qui s'appelle « Population », qui parlait de l'équipe de France de football et qui considérait qu'il y avait trop de noms à coucher dehors, on disait à l'époque. Vous voyez ? Bon, aujourd'hui, il y a un nom polonais, italien, etc. Plus personne n'ira dire ça. Donc tout ça, c'est un processus qui évolue constamment dans l'histoire. Mais ce couple, étrangeté, familiarité, il est très important. Et la familiarité, c'est pas qu'une notion intellectuelle. C'est beaucoup une notion émotionnelle. Et moi, c'est ce que, quand je disais que j'ai évolué, que j'ai essayé aussi d'être un peu penser contre moi-même, c'est par rapport à ça. Pendant, je sais pas, 20 ou 30 ans, j'ai circulé comme ça, avec des conférences contre le racisme, etc., etc. Puis à un moment, surtout vu les scores du Front National, je me suis dit, il faut aussi que je fasse mon autocritique. Hein. Et je me disais, ben oui, finalement, tu parles toujours à des gens qui sont déjà convaincus. Pour sortir de là, c'est là que je me suis rapproché des artistes, qu'on a essayé de faire autre chose, de toucher les émotions. Et nous, on ne sait pas faire ça. Un historien normal, on ne lui apprend pas ça. Donc, il faut avoir d'autres compétences pour travailler avec d'autres gens. C'est pour ça que dans notre association, on travaille avec des comédiens, des artistes qui vont pouvoir toucher cette corde-là. Donc, l'enjeu, c'est aussi de maintenir le cap sur la raison, sur la connaissance, mais aussi de trouver des moyens de la diffuser en respectant les autres pour ce qu'ils sont. Et voilà, en faisant un cheminement avec eux à partir de leur propre expérience, de leur propre, disons, identité personnelle. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui est un peu, parfois en filigrane, enfin je n'ai pas voulu beaucoup développer, je l'ai fait dans d'autres travaux, mais un des enjeux importants pour moi, c'est...
On va prendre quelques questions. Je sais pas si... François, une question très courte. J'allais poser la même question sur le livre de Michel Zancarini, parce qu'évidemment, on ne peut qu'être frappé par l'apparition des deux livres. Donc du coup, là, je vais déplacer aussi ma question. En étant très provocateur bêtement, là, il y a un film qui sort sur la Révolution française, à l'instant. Tu parlais quand même de ce que tu faisais sur le théâtre, etc. Évidemment, je suis convaincu du contraire, mais à quoi ça sert encore d'écrire des livres d'histoire? Puisque tu disais toi-même que voilà, tu as constaté que malgré tous tes travaux et les travaux de beaucoup, le Front National et ses succès d'année et bien pire continuent de monter.
Oui, vous savez, on avait posé ce genre de questions à Jean-Paul Sartre et il disait j'écris des livres parce que je ne sais rien faire d'autre. Je pourrais répondre la même chose. Bon, ce serait qu'une partie de la réponse, mais parce que si j'avais vraiment que ça comme argument, je crois quand même que je m'arrêterais. Mais il y a aussi effectivement l'idée que faut maintenir une forme de résistance et qu'il y a des conjonctures politiques très négatives. Il y en a qui, si on se rappelle dans le passé, bien dans les années 30, il y en a des gens que Marc Bloch a écrit peut-être ses chefs-d'œuvre dans les années 30. C'était pourtant une période, et avec des intentions civiques, même s'il ne l'explicitait pas, mais importantes. Hein, ses travaux sur l'histoire rurale, etc., c'était quand même une historiographie qui était tournée contre l'historiographie réactionnaire des racines, etc. Donc voilà, il ne faut pas... il ne faut pas surestimer. C'est peut-être le tort qu'on a. Moi, c'est peut-être le tort que j'avais au début. Quand j'ai commencé, je me suis lancé à fond dans l'histoire de l'immigration. C'est parce que les historiens n'avaient pas étudié ça avant. Et le Front National, disons, commençait à s'emparer de ça. Je vous disais, quand on aura fait de bonnes recherches là-dessus, le Front National ne pourra plus tenir ses discours. On se rend compte que ces gens-là s'en foutent. Hein, c'est pas la question de la connaissance, de la réalité, de l'argumentation qui compte. C'est un fonds de commerce qui tourne sur lui-même. Bon. Donc voilà, mais ça n'empêche que c'est très important, je pense, de maintenir quand même un espace civique avec, voilà, aussi au niveau de la transmission des générations. Parce que ça, pour moi, l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est ça. C'est de voir qu'il y a, dans la nouvelle génération, beaucoup de gens eh bien, qui continuent ce type de combat sur le plan aussi intellectuel, etc. Parce qu'autrement, c'est laisser toute la place à des gens qui horrible, extrêmement dangereux, etc. Donc oui, je crois qu'il y a encore matière. Et souvent d'ailleurs, Le cinéma ou le théâtre vont aussi s'inspirer des travaux. C'est pas forcément le cas. Je pourrais vous parler de mon expérience pour le Clown Chocolat, le film qui a quand même eu 2 millions d'entrées, ce qui est pas rien. Hein. J'ai été vaguement associé à l'écriture du scénario. C'est des choses compliquées, très compliquées, mais des batailles qui valent le coup malgré tout d'être menées. Enfin, tel que je conçois, moi, le métier d'historien. Il y a d'autres façons de le concevoir. Mais quand on a cette fibre, je dirais aussi, militante, engagée, oui, tous ces combats-là doivent être menés.
D'autant plus que c'est un livre qui peut être lu par les profs. Et je pense qu'en termes de transmission, c'est un outil aussi pour penser autrement à un certain nombre de questions quand on enseigne. Et je pense que là, pour le coup, ça sert, parce que ça touche un public. Fatalement, si c'est multiplié par, évidemment, la présence dans l'enseignement, c'est un public beaucoup plus large que le simple lectorat du livre.
Justement, ma question, en fait, portait un peu sur ça, parce qu'en ce moment, il y a aussi pas mal de choses qui sortent sur l'enseignement de l'histoire. Donc je m'en avais posé la question, comment vous voyez la relation entre la recherche en histoire et l'enseignement en histoire sur précisément la question d'histoire sociale et populaire?
Oui, ben ça c'est un enjeu majeur, hein. J'en ai pas parlé, mais c'est évident que cette liaison qui existe en France entre enseignants et chercheurs, elle est tout à fait à défendre, elle est fondamentale. C'est justement les liens qu'on entretient avec le monde enseignant qui sont vite essentiel. Moi, j'ai enseigné longtemps dans le secondaire, donc je peux en parler, et qui permet quand même de maintenir une résistance face au flot médiatique de pire en pire aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Donc c'est absolument fondamental de garder ce lien et que les enseignants continuent à lire les ouvrages, à participer, parce que beaucoup d'enseignants sont eux-mêmes dans des logiques de recherche. Enfin, c'est pour moi, c'est tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, je m'étais investi dans les années 80. J'ai fait partie de plusieurs commissions de réforme des programmes d'histoire pour faire une place plus grande à la question de l'immigration, etc. Donc, c'est des batailles toutes civiques, tout à fait essentielles aussi.
Sur la rupture de la fin du 19e siècle dont vous avez parlé, vous avez parlé de sorte de nationalisation, d'idée de la nation qui s'est généralisée. Or, ça vient, il me semble, en même temps qu'un développement de la colonisation. Est-ce que ça a emporté l'adhésion populaire, et comment et pourquoi est-ce que ça a été possible d'aller dans ce développement de la colonisation aussi, alors qu'on se serrait les coudes en quelque sorte autour de la nation?
Oui, oui, bah c'est un grand enjeu hein, dans les polémiques entre Clémenceau et Jules Ferry hein, à la fin du XIXe siècle sur la question coloniale. Alors effectivement, la légitimation de la colonisation, quand on voit, elle s'est faite justement avec un vocabulaire national, voire nationaliste. Hein, au départ, justement, l'intervention au Tonkin, par exemple, elle est justifiée en disant « Regardez, nous, nos pauvres soldats français sont matraqués par ces sauvages. » Donc il y a tout un jeu, une rhétorique du « nous ». C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que se construit toute une rhétorique utilisée à la fois par les politiciens, mais beaucoup par les journalistes de la grande presse, visant à faire en sorte que les Français, que les citoyens s'identifient à ce « nous » français, qui est soit, donc c'est des stéréotypes, hein, soit les figures dominantes, c'est soit le Français victime. Donc là, c'est les sales boches, hein, les boches. Donc toute la problématique antisémite du juif allemand, de Dreyfus, qui aurait livré des secrets militaires, s'inscrit dans cette matrice-là. Ou alors du français héros, qui va répandre la civilisation dans le monde. Voilà. Alors, les manuels scolaires en braille, etc. Bon. Et ça a un grand impact. Hein. Il ne faut pas le nier. Parce que y compris le Parti Socialiste va finalement rejoindre la logique coloniale, donc il y a un grand impact parce que bien, l'opinion d'une part se sont pas concernés parce que c'est loin, etc. Donc vous avez des gens qui peuvent être actifs même au sein du mouvement ouvrier, qui peuvent participer à des grèves, et puis sur ce terrain-là être complètement d'accord avec une logique coloniale. Il faudra attendre après. Alors il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a des mouvements qui vont se développer pour critiquer la colonisation, mais ce sera surtout après la Première Guerre mondiale. Hein. Donc il y a effectivement une... Ce n'est pas conçu comme quelque chose de contradictoire avec la nationalisation. Au contraire, c'est conçu comme on a perdu la guerre de 70, hein, ça c'est du grand thème, donc il y a l'humiliation, un sentiment d'humiliation, qui est bien entretenu d'ailleurs par les élites, Renan, etc., etc. Et grâce à l'aventure coloniale, la France va retrouver son rayonnement mondial. Il y a cette logique, mais donc elle est toujours imprégnée par une perspective nationale.
Je te remercie déjà pour ton bouquin que j'ai lu à peu près à la moitié. Je suis rendu à la moitié à peu près. On est chez Quilombo, donc je voulais savoir quelle place t'accordais aux libertaires, aux anards dans ton histoire. Surtout, tu as dit que c'était un rapport à l'État, à la République, à l'ordre républicain. Nous sommes intéressés que tu en dises deux, trois mots. Quoi. Merci.
Je dois dire que, à ma grande honte, j'en parle pas beaucoup dans le bouquin. Alors là, ça me permet. Votre question, on peut se tutoyer ou se voyez, c'est prends le vocabulaire anarchiste, on va se tutoyer. Ta question, elle met le doigt, mais c'est fidèle à la philosophie anarchiste, sur un problème que j'ai rencontré, c'est-à-dire que toujours obligé de faire des choix. Il y a des tas de choses dont j'aurais voulu parler plus en détail. Au sein du mouvement ouvrier, toutes les contradictions. Et puis, bon, bah, à chaque fois, si je voulais garder l'unité de ma perspective, tenir les délais, il y avait aussi cette question-là. Souvent, j'étais bien placé pour le savoir. Souvent, j'ai été amené. Voilà. Donc, ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est à certains moments, je vais mettre un peu l'accent sur un thème, et puis à d'autres moments, j'aurais pu aussi bien en parler, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, je parle souvent dans ces tendances anarchistes, parce que c'est une dimension de la culture populaire. Au-delà des... Parce que je parle pas beaucoup d'une histoire politique par en haut, des divergences entre les dirigeants politiques, mais j'essaye de quand même donner une dimension sur les formes de résistance et de dissidence, parce que dans la figure du prolo français, surtout au XIXe siècle, l'image, si vous voulez, de l'artisan du faubourg Saint-Antoine, si on veut, hein. Il y avait une tradition quand même, une mémoire qui se transmettait. C'est des gens qui voulaient pas être inféodés à un parti. On est au cœur de l'action directe, là, qui développent donc leur propre organisation et qui vont donc peser très fortement dans la première phase dans l'histoire du mouvement ouvrier français. Donc c'est surtout par rapport à ça que j'en parle, plus que dans les développements du XXe siècle. Parce que je pense que ça a orienté, dans une certaine mesure, la physionomie du mouvement ouvrier français, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les bourses du travail, les coopératives d'Allemagne, etc. Enfin, toute cette tradition-là. Je trouve que c'est important, j'ai regretté de ne pas pouvoir le faire plus, mais il y a des bouquins là-dessus, je les cite dans ma bibliographie. Parce que ça peut aussi, ça montre une des choses, parce que c'est ma conclusion, elle est sur le livre de Macron, son programme présidentiel, qui s'appelle Révolution. Il dit, Révolution, ça vaut le coup quand même que j'aille lire ça, de peut-être apprendre des choses. Et je me suis dit, et je vois, dans ce truc, il parle beaucoup d'histoire. Hein. L'histoire est constamment présente dans son programme, mais c'est une histoire pour justifier évidemment son orientation politique libérale. Donc les classes populaires, on ne les trouve jamais. Quand il parle des classes populaires, c'est toujours un poids, c'est toujours un fléau, c'est toujours des pauvres qu'il faut, etc. Donc c'est jamais une richesse, jamais. On ne le trouve jamais. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, c'est pas un hasard, hein, quand vous voyez comment il aborde ces questions-là. Donc c'est pour ça que je trouvais important de montrer tout ce qu'ont apporté les classes populaires. Et justement, toute cette démarche un petit peu d'une production autour de coopératives, etc., ce sont des choses qu'on doit beaucoup au mouvement ouvrier. Vous avez un sociologue que j'admire beaucoup, qui a fait de l'histoire, qui s'appelle Alain Cottreau, qui a montré ça par rapport à toute la démarche alternative que les canuts lyonnais avaient proposée dans l'industrie de la soie, en s'opposant à la logique capitaliste qui venait d'Angleterre. Eh bien, il dit dans l'étude qu'il a faite là-dessus que c'était déjà prémonitoire par rapport à ce que les théoriciens aujourd'hui de Californie, de la Silicon Valley, sur la flexibilité, etc., c'était déjà des choses que le mouvement populaire avait initiées. Donc il y a toutes ces ressources dans l'histoire populaire qui peuvent encore nous servir aujourd'hui à imaginer des futurs différents de ceux que les technocrates veulent nous imposer.
Un peu en lien avec la question précédente, dans le sens où on est à Paris, dans une grande ville, en 2018. Et quand on dit quartier populaire, c'est souvent une manière de nommer des catégories très en lien avec la race, avec l'immigration. Pareil, j'ai pas lu votre livre, j'ai vu le sommaire vite fait tout à l'heure. Et je sais pas la place que vous donnez à votre manière d'aborder ça. Vous avez parlé vite fait de la race tout à l'heure, racialisation. Je crois que le terme a été sorti, ça fait longtemps déjà, notamment par Fanon. Et je me demandais la place que vous donniez à... Enfin, je suis conscient que classe populaire, c'est très large. Mais voilà, maintenant, de nos jours, et depuis quelques décennies déjà, quartier populaire, c'est très racisé, c'est très une manière de dire, comme disent certains, issus de l'immigration. Bien. Et votre manière d'aborder aussi les mouvements, les luttes qu'il y a dans ces quartiers, que ce soit, je pense, à 2005 ou aux années 80 ou avant même, on peut même remonter à la guerre de libération algérienne et à ce qui s'est passé en France, aux organisations qu'il y a eu en France en lien avec cette guerre-là.
Oui, alors effectivement, l'une des intentions aussi civiques du livre, c'est de remettre l'accent sur le populaire. Ce que je montre dans le livre, le tournant qui s'est produit dans les années 80, le mouvement ouvrier avait créé dans l'entre-deux-guerres une expression qui était l'expression de travailleurs immigrés. Hein, avec le Parti communiste, dans la phase, j'allais dire gauchiste, hein, quand le Parti communiste est un parti assez groupusculaire, je crois qu'il y avait 12 députés, avait organisé des groupes de langue, hein, et la tactique classe contre classe visait à privilégier les plus dominés, c'est-à-dire les immigrés et les travailleurs des colonies ou les immigrés de l'empire colonial. Ça a été le premier parti communiste, s'est développé comme ça, et c'est à ce moment-là que l'expression « travailleurs immigrés » s'est imposée. Cette expression, moi, je la trouve utile, nécessaire, parce qu'elle combine deux critères. Le travailleur, le critère de classe, et puis la question de l'origine, donc des problèmes particuliers de discrimination peuvent subir des gens qui viennent d'ailleurs. Et elle a été réactivée en 68 par les groupes d'extrême-gauche. Vous savez, la politisation, la repolitisation, on pourrait dire, de l'immigration en 68, elle n'est pas venue de la droite, elle est venue de l'extrême-gauche. Et lorsque les groupes d'extrême-gauche font du travailleur immigré un peu l'archétype du nouveau prolétaire. Bon, ça va être très important. Il y aura des luttes contre... La première loi contre le racisme qui date de 1972, en fait, c'est la suite des combats que les groupes, qui associaient d'ailleurs des travailleurs immigrés, un certain nombre de travailleurs immigrés qui étaient associés à ce type de lutte, vont mener. Bon, donc il y a toute cette mouvance où je dirais que c'est la gauche, l'extrême-gauche, qui a l'offensive pour lutter contre les discriminations qui visaient les travailleurs immigrés, dans l'entreprise, les OS, dans les quartiers, dans les bidonvilles, dans les foyers, etc. Et puis dans les années 80, il y a un retournement complet des choses. C'est-à-dire que le débat sur l'immigration passe à droite et à l'extrême droite. Hein. Et quand le Parti socialiste arrive au pouvoir en 81 avec Mitterrand, eh bien, au bout de 2 ou 3 ans de pouvoir, il y a un basculement. Le Parti socialiste donc abandonne les références sociales, aux classes sociales, et va privilégier justement un discours identitaire autour de Black Blamber, SOS racisme, etc., etc. Et le combat va donc se déplacer sur la question identitaire au détriment de la question sociale. Ce basculement, il n'est pas propre qu'à la France. Hein, c'est le mouvement, on le trouve dans toute l'Europe, avec Tony Blair en Bretagne, Schröder en Allemagne, et bien sûr aux États-Unis, parce que c'est le virage libéral qui se produit aussi aux États-Unis. Et ça, l'expérience prouve que les conséquences ont été dramatiques, parce que justement, la dimension sociale ayant été marginalisée, les inégalités se sont accrues, les mouvements qui étaient fédérés se sont divisés, les affrontements qu'on peut trouver aujourd'hui sur la place publique autour des questions identitaires ont pris le dessus. Simplement, ce que j'essaye de montrer, c'est que les personnes ne peuvent pas être réduites à un seul critère d'identité, hein, comme le font un certain nombre de gens qui sont des porte-parole aussi, qui se disent être les porte-parole des jeunes des quartiers, etc. Donc c'est pour rétablir une démarche qui relie la dimension sociale, l'appartenance sociale des gens qui vivent dans les quartiers qui sont les plus déshérités, donc c'est bien une question sociale, économique et sociale, et puis les spécificités qu'ils peuvent avoir par ailleurs en raison de leur culture, de leur tradition, de leur religion, etc. Mais c'est cette articulation-là qui me semble essentielle de refaire aujourd'hui si on veut redonner de la vigueur aux luttes sociales. Parce qu'autrement... vous comprenez bien que la droite, les milliardaires, tous ceux qui possèdent les grands moyens d'information, ils ne rêvent que de ça, que de voir que les pauvres se battent entre eux, en gros, quoi. Donc ça, pour moi, c'est effectivement une dimension importante qui est à la fois, qui relève de l'analyse socio-historique, mais qui est aussi importante du point de vue civique. Alors, c'est pour ça que dans le livre, j'insiste sur les luttes qui ont pu être menées de décolonisation. Je parle de Fanon, je parle aussi des luttes au sein de l'Empire colonial, intégrées dans une histoire globale. Mais à mes yeux, ça ne doit jamais occulter
la dimension sociale. Parce qu'autrement, il y a aussi, on a vu ce que, regardez ce qu'ont donné dans les pays anciennement colonisés, l'indépendance. Souvent, on a une nouvelle classe dominante qui s'est imposée et qui a utilisé aussi ce registre identitaire pour maintenir son propre peuple après dans la souffrance, dans les frères en frange dominée, etc. Donc, il ne faut jamais oublier cette dimension sociale si on veut vraiment avancer, même si on veut faire en sorte que ceux qui se débattent aujourd'hui dans les pires difficultés, ceux qui sont confrontés aux discriminations de tous ordres qu'on connaît, puissent aussi avoir des espoirs d'améliorer leur sort.
En fait, je suis un peu choqué, en fait, de l'incarnation de tout de suite, maintenant, en fait, de tout ramener à la question sociale. En fait, pour le coup, pour moi, vous affirmez le fait, si on répartit de façon très égale les richesses qui sont produites par les travailleurs sur le territoire national, chacun aura sa place dans la société. Le problème étant que, dans un cadre d'analyse, justement, de l'égalité sociale et donc de l'égalité des droits d'accès aux droits fondamentaux, en fait, les discriminations liées aux origines, à la couleur de peau, liées au genre, liées à la sexualité, il n'en reste pas moins qu'elles continueront à persister, en fait. Et que je trouve que dans votre discours, en fait, vous êtes dans une négation totale, en fait, de ça. Et c'est ça qui me choque.
Non, c'est-à-dire, moi, je ne projette pas sur le futur. Là, vous faites un pronostic non, sur ce qu'il faudrait faire. Simplement, ce que je dis, c'est que dans une analyse historique, on ne peut pas, quel que soit le groupe auquel appartient la personne, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son genre, quelle que soit son origine, etc., faire l'économie d'une analyse sociale. C'est ça que je dis. Or, très souvent, aujourd'hui, on a eu... on peut le montrer à partir des travaux, parce que cette question-là traverse aussi le milieu universitaire. Il y a une petite... Moi, j'ai même des gens extrêmement proches de moi, avec lesquels je diverge maintenant très fortement, parce qu'effectivement, ils ont tendance systématiquement à occulter cette dimension sociale. Or, si vous voulez, il est bien certain que... Si je prends la question qui traverse ce que je vous ai dit, tout mon parcours, tout ce que je fais, c'est-à-dire qui parle à la place des autres, hein ? On sait très bien que dans tous ces mouvements-là, ce sont surtout des représentants de la classe moyenne cultivée, ceux qui ont fait des études, etc., qui tiennent le statut de porte-parole. Ce qui est très bien d'un certain point de vue. Je ne vais pas discréditer. J'essaie pas de discréditer ou de valoriser. Je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. J'essaie d'analyser, hein, de comprendre les choses dans leurs contradictions et aussi de voir pourquoi il y a tant de divisions. Voilà. Hein. Donc je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, il y a un risque, parce que dès qu'on parle à la place des autres, forcément, il y a des biais. Donc ces biais, aujourd'hui, ils sont sociaux. Combien vous avez aujourd'hui d'ouvriers à l'Assemblée nationale, hein? Vous savez? Zéro. Bon, je veux dire, les ouvriers, c'est 20% de la population française. Qui parle de cela? On a parlé des inégalités, des discriminations à l'égard des femmes, qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. C'est un sujet bon, de débat. Il faut continuer à lutter là-dessus. On a parlé aussi du fait que les minorités, comme on dit, etc., soient sous-représentées. Mais le débat social, qui devrait être fondamental quand même, parce que c'est quand même massif. Il y a moins aujourd'hui d'ouvriers à l'Assemblée nationale, beaucoup moins qu'il y en avait en 1936. Alors même que le nombre d'ouvriers qui ont le bac aujourd'hui a explosé. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui écarté du débat public. C'est ça, c'est là-dessus que je mets l'accent. C'est pas pour discréditer ou invalider les autres formes, mais c'est pour trouver des moyens de rassembler leurs choses, parce que je pense même que les luttes que mènent les gens qui sont discriminés dont vous parlez gagneraient s'il y avait ce lien. Parce qu'on voit aussi des stratégies nouvelles du Front National aujourd'hui qui exploitent cette insuffisance de l'action, de l'engagement à la fois intellectuel et militant du côté des classes populaires pour essayer de récupérer les classes populaires. Vous savez, hein, vous savez, pour la manif sur tous, quand il y avait des manifs, des pancartes disant se battre pour Aulnay mais pas pour le mariage gay, par exemple, c'était au moment des grèves de Citroën, c'est extrêmement dangereux si on laisse tout cet espace-là à l'extrême droite. Donc c'est ça que je veux souligner. Donc c'est plutôt pour une articulation, mais très souvent quand je dis ça, on voit des réflexes, et on me dit, ah ben oui, mais vous, c'est dangereux, vous parlez pas de tel ou tel. Non, c'est pas ça, il faut pas réagir comme ça. Faut réagir dans une perspective de rassemblement, hein, de rassemblement
des combats. Et la question sociale, quoi qu'on en dise, on peut démontrer constamment qu'elle est déterminante et que d'ailleurs elle touche aussi des gens qui peuvent être de ces minorités, qui en grande majorité sont aussi des gens des classes populaires. Pourquoi on les appelle comme avec d'autres noms? C'est tout l'enjeu aussi de la définition des personnes. Moi, je me suis toujours battu aussi contre cette expression, vous le souleviez tout à l'heure, jeune issu de l'immigration. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous donner un exemple que je cite dans le livre. C'est la comparaison des grandes grèves de 47-48 et des émeutes de 2005. Quand vous regardez la composition des gens, des jeunes qui se sont engagés, vous vous rendez compte que dans les deux cas, ils étaient issus de l'immigration. En fait, les jeunes et les grèves de 47-48 ont été bien plus violentes que les émeutes de 2005, je peux vous le dire, hein. En nombre de morts, en nombre d'attaques de la police, des mineurs qui encerclaient les compagnies de CRS, etc. Mais à cette époque-là, personne n'avait mis en avant le fait que c'était des enfants d'immigrants. Alors qu'en 2005, on n'a vu que ça. Leur ancrage populaire, toutes les raisons qu'ils avaient ces jeunes de se soulever parce qu'ils étaient donc victimes de discrimination sociale dans des banlieues sans espoir, etc., a été masquée pour mettre en avant leur origine, etc., etc. Donc moi, je trouve que analyser les choses uniquement sous cet angle-là, c'est faire trop de cadeaux, disons, à nos adversaires. Voilà mon sentiment, mais bon, tout ça mériterait d'être analysé, d'être approfondi. Mais je pense justement que c'est un chantier, que c'est une de nos responsabilités particulières de remettre ces questions-là en chantier pour trouver aussi les moyens d'articuler les différents niveaux et qu'on retrouve le cheminement du convergence des luttes, comme on disait au printemps dernier.
Oui, alors, merci. J'aurais deux questions justement qui se rapportent à cette question de l'articulation de la question sociale et de la question de la race. Alors d'abord, plus précisément sur ce dont vous parliez, là, c'est-à-dire la transition en fait entre le vocabulaire du travailleur immigré, donc par exemple avec le mouvement des travailleurs arabes, avec le passage d'une rhétorique voilà, de l'immigré, tout simplement, sans le vocabulaire travailleur. Est-ce que, enfin, moi je suis, enfin, évidemment, enfin, on peut le constater, hein, cette mutation dans le vocabulaire, mais est-ce que on n'est pas là plus que face à une volonté simplement politique, quelque part, d'une véritable restructuration du capitalisme français et mondial, en fait, à l'époque, avec notamment une exclusion de ces populations-là du travail au moment de la restructuration des années 70-80. Donc voilà, ça c'était ma première question, par rapport vraiment à ce point-là historique. Et une autre plus générale, qui est en fait, justement, à partir du moment où on fait une histoire populaire de la France, enfin, une histoire populaire de France, est-ce que, en fait, qu'on oppose ça à une logique identitaire, c'est-à-dire de dire, voilà, on va faire une question, on va axer ça sur la question sociale, etc., est-ce qu'on ne nommait pas, quelque part, le fait que, précisément, les classes populaires, en particulier la classe ouvrière, hein, en Europe au 19e, au 20e siècle, se constitue précisément dans le cadre du collectif, enfin, voilà, du collectif national. Donc, du coup, est-ce qu'on ne reconduit pas la question identitaire sur un autre plan, quoi?
Là, la deuxième question que vous posez, elle est très très importante, effectivement, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec aujourd'hui des classements qu'on peut trouver médiatiques où il y aurait les identitaires d'un côté et les non-identitaires de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on fait une analyse sociale qu'on n'est pas dans l'identitaire. Ce que je montre dans le livre, c'est justement que le mouvement ouvrier s'est construit en fabriquant de l'identité ouvrière aussi. Moi, je préfère parler d'identification. Hein, donc ces processus d'identification, ils peuvent toucher différents facteurs, effectivement. Donc c'est pas réservé à ceux qui mettent en avant l'origine, la religion, etc. C'est pour ça que le vocabulaire, il est approximatif, mais bon, on est parfois obligé d'utiliser les termes du vocabulaire courant, par le fait du langage courant. La question de l'approche sociale, je dirais, pour moi, je ne l'oppose pas au reste. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous envisagez les individus dans leur existence réelle, je ne vois pas comment vous pourriez échapper à la question économique et sociale. Je veux dire, les gens vivent, ils travaillent ou ils n'ont pas de travail. Vous voyez, toute cette dimension-là est constamment présente. Donc c'est plutôt pour lutter contre une réification qui réduit les individus à un seul critère, comme j'ai dit tout à l'heure, que je me bats. Mais ce n'est pas pour occulter des dimensions, y compris les formes de tension à l'intérieur des classes populaires. Ce que je disais tout à l'heure, les formes de domination à l'intérieur des classes populaires, elles se sont rencontrées par rapport à la xénophobie, les formes de tensions qui ont existé avec les travailleurs immigrés. J'ai écrit un livre, je l'ai dit, sur Aigues-Mortes, c'est un exemple de pogrom à l'égard de travailleurs immigrés italiens. Et puis les aspects plus récents avec l'immigration algérienne, le 17 octobre 61, ou toutes ces formes de racisme qui ont existé aussi en classe populaire, évidemment qu'il faut aussi en tenir compte. Donc c'est pas, il n'y a aucune volonté de ma part c'est peut-être un peu ce qui me différencie de Michel Zancanini-Fournel, de vouloir idéaliser ou de vouloir construire une sorte de pureté populaire, etc. C'est pas mon analyse, mais c'est plutôt de ramener les réalités dans leur ancrage du quotidien, ce que vivent tout le monde par le fait. C'est plutôt ça qui me préoccupe. Et pour la première question, alors ça c'est effectivement tout à fait fondamental, c'est qu'il y a un virage qui s'est produit un peu partout dans le monde, c'est la financiarisation, comme on dit, du capitalisme, le virage qui s'est produit, et lisez un autre ouvrage excellent de chez Agon, le bouquin de Thomas Frank, Pourquoi les riches votent à gauche, c'est ça? Oui, Pourquoi les riches votent à gauche, qui montre très bien comment aux États-Unis il y a eu ce basculement et comment la gauche, derrière le Parti démocrate aux États-Unis, a finalement abandonné les classes populaires pour se replier sur justement ces luttes, pour maintenir son identité de gauche. Et du coup, on arrive à cette situation qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les statistiques prouvent que les inégalités sociales n'ont jamais été aussi grandes aux États-Unis et que finalement les premières victimes, c'est les Noirs américains. C'est ça le paradoxe, c'est que ça rejoint finalement aussi, on pourrait dire par ce biais-là, des questions de discrimination raciale. Sauf qu'il y a une bourgeoisie noire qui a pu s'extraire de tout ça, et puis il y a un prolétariat qui en subit de plus en plus les conséquences de ce capitalisme, et qui n'est plus capable de se fédérer, parce qu'il y a un clivage, et Trump a été élu grâce à ça, grâce aux divisions très fortes aujourd'hui au sein des classes populaires. Et on a en plus aux États-Unis donc un monde universitaire, moi-même j'ai passé une année à Princeton, donc dans une sorte de... j'allais dire de ghetto d'intellectuels, si on veut dire, enfin qu'on a du mal à comprendre ça en France. Moi, je me sentais extrêmement mal à l'aise, mais vous aviez des collègues extrêmement radicaux du point de vue du discours, mais vous voyez, qui vivaient dans un monde qui était complètement coupé des réalités populaires. Alors qu'en France, je veux dire, Dieu merci, moi j'habite en banlieue depuis toujours, je me sens bien dans ces quartiers, il y a encore des... Mais voilà, vous savez, il y a des travaux qui sont parus récemment sur la sécession des riches, qui se produit aussi en France, où les mettent de plus en plus leurs enfants dans les écoles privées, etc., etc. On a des tendances qui vont dans ce sens-là. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est pour ça qu'il faut fédérer les forces qui tirent quelque part dans le même sens, pour essayer de ne pas évoluer dans ce sens qu'on voit qui peut expliquer aussi la montée du populisme, etc. Donc c'est pour ça que je crois que, y compris dans le langage, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais la capacité d'énoncer sa souffrance dans un langage social me semble extrêmement importante. Parce que, elle mettra l'accent sur ceux qui détiennent le capital, le pouvoir, etc.
Oui, de l'envers, pour vous, le langage. Je suis une génération qui a encore eu une partie de son éducation dans les livres d'images pieux, idéologiques, où, par exemple, nous montrait les races du monde. Donc, on avait des grandes fresques. Et je me souviens qu'il était totalement évident à cette époque-là, dans les années 50 encore, que les Blancs incluaient l'ensemble des populations d'Afrique, du Nord, du Moyen-Orient. C'était des types de Blancs. Et on a vu apparaître sous Mitterrand la notion de beurre. On a racialisé les Nord-Africains d'une manière absolument éhontée. Et je pense que ça fait partie de cette désocialisation des problèmes d'identité et de création d'identité qui aujourd'hui fracture la société pour des raisons absurdes.
Oui, ça c'est particulièrement flagrant. Effectivement, l'émergence brutale de ce terme, qui a été en fait popularisé au départ par le journal Libération. J'ai un de mes étudiants qui a étudié justement l'histoire de ce mot au beurre, son éruption, les combats qu'il a menés, parce qu'il y a eu un certain nombre de gens qui étaient étiquetés comme ça, qui n'en voulaient pas, mais on ne leur a pas laissé la parole. Et donc le combat après politique s'est structuré entre une gauche qui valorisait les beurres et une droite qui les discréditait, c'était le Figaro contre Libération, si vous voulez, si je simplifie, et effectivement, avec les attentats, etc., c'est vraiment la droite qui a remporté haut la main cette bataille-là. Et donc la gauche a été, en se plaçant sur le terrain identitaire, elle a été de recul en recul. Vous voyez ? Donc je crois qu'aujourd'hui, moi je pense qu'en 1983-84, Pierre Mauroy, qui était Premier ministre à l'époque, a dit que les grèves des ouvriers, des OS dont beaucoup étaient issus justement de l'immigration algérienne, marocaine, etc., que leur grève était téléguidée par l'ayatollah Khomeini. Imaginez, en 1936, Léon Blum acceptant de dire que les grèves de 1936 étaient téléguidées par la main de Moscou, parce qu'on avait l'équivalent à l'époque. Hein. À l'époque, vous disiez, c'est...
Plus... Hein, fort, la Moscou.
Ben non, évidemment, être de gauche, Léon Blum n'a jamais accepté ce genre de discours qui était vraiment marqué à droite. Donc, j'ai lu aussi, il y a une très belle thèse qui a été écrite là-dessus, que le Figaro Magazine, on ne peut pas imaginer plus à droite, hein, comme vous le savez, avait félicité Monroir pour son courage. Effectivement, rétrospectivement, on peut dire qu'il a été super courageux, parce que finalement, la gauche a scié la branche sur laquelle était assis. Et la liquidation du PS aujourd'hui, pour moi, c'est la conséquence à long terme de cette stratégie-là, quoi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que pas mal de gens à gauche se disent « Oui, il faut remettre le paquet sur la question sociale. » Ça me semble évident. Et voilà, il faut encourager aussi ceux qui vont dans ce sens-là. Parce que là, comment voulez-vous trouver une meilleure preuve d'une faillite d'une politique?
Écoute-la, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons. Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarche. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son pot de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine, la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine, ses théories sont consanguines, parle de flingue, de carabine. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de Corrèze enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette fois revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette fois c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour le monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu, quel étranger, et y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente, elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile, elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond, c'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette fois c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette fois c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale, mon identité. Jamais national, jamais jamais national, mon identité. Jamais national, jamais jamais national, mon identité. Jamais national, jamais jamais national, mon identité. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette fois revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. si ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette fois, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale.
Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de commenter ce long exposé. Bon, même si ça se suffit à soi-même.
À soi-même, oui, je pense. Ouais, il dit finalement ce qu'on aurait aimé de dire aussi, et qu'on essaye de dire d'ailleurs à chaque fois, mais où la question sociale est la question centrale. Et bon, voilà, je pense que c'est, il suffit d'écouter, quoi. C'est chouette, vraiment chouette, quoi.
Alors, on pourra retrouver les deux parties sur le site de l'Égrégore, comme j'ai dit, sur le blog Arte Radio du Chat Noir et de l'Égrégore. Et bon, évidemment, hein, l'ouvrage est extrêmement volumineux, 832 pages, 28 euros. C'est pas forcément super populaire, même si c'est écrit dans un langage très très simple et la narration est très coulante. On peut lire un chapitre par-ci par-là. Moi, je crois que ce qui est important, hein, c'est à l'intérieur de l'échange et des débats qui sont faits après, hein, où il y a des gens qui amènent leurs questions légitimes. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui est mis en avant par Noiriel, hormis le fait de privilégier ce qui rassemble plutôt au détriment de ce qui divise, c'est de voir comment justement ces notions idéologiques et intellectuelles, par qui elles sont portées et comment elles sont portées. Et quand on voit aujourd'hui les crispations identitaires qui ont lieu et par quel vecteur ces crispations sont véhiculées, c'est très intéressant d'utiliser le long terme pour voir comment elles se sont constituées et quelles couches, comment quelque part l'histoire ne se répète pas, mais plutôt elle bégaye. Et tous les exemples qui sont donnés à l'intérieur de l'intervention et dans le livre de Noiriel le démontrent bien. Et je pense que effectivement on aura l'occasion de revenir à la fois sur cet ouvrage et peut-être une fois encore d'en donner la parole à cet intellectuel qui remplit quelque part la fonction qu'on peut attendre d'un intellectuel, nous, à l'Égrégore, en tous les cas, ce qui lutte, c'est-à-dire de nous permettre de mieux comprendre les choses et de les éclairer d'une lumière qui nous permette de mieux les maîtriser et de s'en rendre accessible, plutôt que de nous donner des leçons et de nous donner des injonctions à faire ce qu'il faudrait faire.
Voilà, surtout il y en a marre de ceux qui parlent à la place des autres.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.